téléspectateurs
bougent. 9h40, l'instant M, ça passe vite et ça en dit long.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Les talk-shows du soir de l'équipe télé sont en passe de devenir cultes quand on n'a pas les moyens de se payer le foot. Faut bien trouver des astuces pour le raconter et miser sur d'autres sports, ceux dont les chaînes les plus riches ne veulent pas. Pas forcément, surprise, ça marche. 1 million de personnes ont suivi le biathlon au quotidien. Et là, ça grince des dents dans tous les sens parce que le biathlon, tout le monde en veut. Mais ça, on va vous en parler dans 2 minutes. Pas mal dans ces cas-là, évidemment, de s'appuyer sur un quotidien national et un site internet qui porte le même nom, l'équipe. Pour faire monter la sauce, le patron du tout, c'est vous. Bonjour Cyril Linette.
Bonjour Sonia.
Eh bien, on va vous parler de tout cela dans 5 minutes. Mais d'abord, l'actu des médias normal dans l'émission d'actualité des médias de France Inter.
L'instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
Alors, l'affaire Mehdi Mekla, c'est une affaire de médias, parce que tous les médias s'en sont emparés, parce que ce jeune homme a incarné plusieurs médias, parce que la polémique se nourrit d'un débat très actuel sur les médias. Parlons-en, ce sera un peu plus long que d'habitude, pas étonnant. Mehdi Mekla, c'est le Mehdi de Mehdi et Badrou, qui ne sont plus à l'antenne de France Inter depuis presque 2 ans, mais que vous écoutiez ici longtemps, pile à l'heure où je vous parle. Mehdi et Badrou, ancien du Bondy Blog, auteur au Seuil, bossant pour Arte, la fondation Cartier et figurant en couve des Inrocks, seulement voilà, a été exhumé une avalanche de tweets ignobles, racistes, homophobes. Mehdi Mekla en est l'auteur sous le pseudonyme de Marcelin Deschamps. La LICRA s'en saisit et transmet au procureur de la République. Mehdi Mekla publie un texte entre-temps pour se justifier. Il a créé, Marcelin Deschamps, un double de fiction, un personnage virtuel qu'il détestait mais qui lui servait à traduire les pulsions du web. Le problème, c'est que Marcelin Deschamps fit aussi la promo sur Twitter des activités de Mehdi Mekla et que si Mehdi a fini par tuer Marcelin, il a continué à se servir de son compte pour régler ses comptes, maniant allègrement l'insulte. Des voix d'Inter en ont fait les frais autant que d'autres. Maintenant, cette affaire mérite-t-elle autant de battage médiatique? Non, les médias sont pris au piège des imposteurs du net dont ils passent un temps dingue à contrer les propos. Tant d'infos, tellement plus cruciales, mériteraient d'émerger. En même temps, Mehdi n'est pas un petit énervé isolé. Le Bondy Blog, Inter, Arte, Le Seuil, il a dégainé tour à tour de prestigieuses cartes de visite au sein desquelles la virulence de ses délires sème l'effroi et sur lesquelles elle jette le doute. Et ce, dans une période où l'on s'empresse de discréditer systématiquement la presse, de faire le procès de médias qualifiés pêle-mêle de gauchos, bobos, bien-pensants, élitistes, au nom d'une prétendue méfiance populaire que d'aucuns détournent et récupèrent. Ici, la démonstration est éclatante. Livre, documentaire ou chronique radio, c'est à ça que sert un média, à construire une parole, une pensée, pas à ouvrir les vannes du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il y a un monde entre ce que publiait Mehdi Mekla sur les ondes et ce qu'il crachait sur la toile. Mais les médias qui l'ont employé auraient dû se montrer bien plus vigilants. Parce que Marcelin Deschamps, blague ou pas blague, il a bon dos l'avatar, ce n'est pas Inter, pas Arte, pas Le Seuil, pas le Bondy Blog. Au fait, Mehdi, c'est qui? Une icône de banlieue titrait hier Le Point. Et c'est tout le problème de fabriquer des voix labellisées banlieue, de jouer avec des symboles médiatiques dans lesquels en réalité peu de gens se reconnaissent au-delà du périph. D'ailleurs, ça fait bien longtemps que le garçon est surtout une icône du chic parisien et c'est tant mieux. Ce n'est pas parce qu'on est né quelque part qu'on est obligé de l'incarner toute sa vie. On a le choix au nom de qui, au nom de quoi on parle. Avec son double virtuel, Marcelin Deschamps, Mekla a fait le mauvais choix. Des voix extrêmes, et même pas seulement extrêmes, n'attendaient que cela pour cracher à la fois sur la banlieue et sur les médias.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Cyril Linette, vous voulez réagir à cette affaire qui agite
Non, particulièrement. Voilà. J'en rajouterai pas, puisque aujourd'hui tout le monde commente tout, donc je vais m'abstenir.
Voilà. Ça vous rappelle pas ces grandes équipes désespérées courant derrière leurs jeunes joueurs qui publient n'importe quoi sur les réseaux sociaux?
Si, je pense que c'est effectivement un enjeu aussi pour un certain nombre d'institutions sportives, en effet.
Voilà. Ouais. Alors, on va parler de sport, on va parler de presse, on va parler de web, on va parler de télé. D'abord, on va parler peut-être de politique, puisque c'est une année présidentielle. Révélation du livre de l'année, souvenez-vous, d'avait sauver l'homme, un président ne devrait pas dire ça. François Hollande a appelé l'émir du Qatar en avril 2014 pour pousser le propriétaire de beIN Sports à partager la Ligue 1 avec Canal+. Canal+, c'est votre ancien employeur, vous y étiez patron des sports, patron des acquisitions sportives. Comment expliquer qu'un président de la République cherche à sauver Canal?
Non, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Aujourd'hui, je suis patron de l'équipe depuis 2 ans, donc je n'ai pas forcément pour habitude de commenter les affaires qui concernent ou qui ont pu concerner Canal. Moi, à mon niveau, j'ai le souvenir d'un appel d'offres qui s'était déroulé dans les règles. Point.
Vous y étiez.
Oui, effectivement.
Vous étiez patron des acquisitions.
Voilà, et on avait misé, effectivement, pour remporter la Ligue 1 et les lots principaux.
Vous étiez patron des acquisitions.
Absolument.
C'était vous.
La Ligue 1 et il nous fallait la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Mm-hmm. Et Canal avait réussi son appel d'offres. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé au-dessus, en dessous, derrière, j'en sais rien. En tout cas, globalement, à l'époque, nous étions contents et soulagés. C'était pas si simple pour Canal que de remporter ces lots.
Et vous vous attendiez à ce que l'Élysée intervienne là-dedans?
Non, je l'ai appris comme vous, je l'ai lu, voilà.
Ah bon?
Point.
Oui. Vous l'avez appris comme moi?
Oui.
En lisant le livre?
Oui.
Bien, bien, bien.
Mais on est là pour parler de l'équipe ou pour parler de Canal+? Parce que, a priori, j'essaie d'éviter, j'essaie de parler des affaires qui me concernent aujourd'hui. C'est
oui.
un peu l'idée.
Oui, bien sûr, ça je comprends bien, mais ouais. il se trouve que ça a été une des grandes révélations de ce bouquin, ouais. ça a été un des grands événements de l'année, la sortie de ce livre.
Disons
que vous étiez en poste à l'époque.
Oui, absolument, mais moi j'ai pas d'informations j'ai pas d'éléments pour étayer cette information.
Alors, on revient à l'équipe.
Déjà, nous, on a un sport à catégorie de poids. Du coup, pour faire le poids, quand on est une femme et qu'on a nos périodes, on a nos règles, on prend du poids, on ne sent pas trop bien, même pendant les entraînements, on a mal au ventre, on est fatigué parce qu'on perd plus de sang. Du coup, oui, c'est quelque chose qu'il faut aborder, c'est totalement logique et normal.
L'équipe magazine a osé une couverture incroyablement audacieuse ce week-end. Cyril Linette, les règles, le dernier tabou du sport féminin. Avec un dessin en plus, il faut le dire, en une, un corps de femme et une culotte tachée de sang. Totalement inattendu dans le monde du sport aujourd'hui, non ?
Oui, peut-être, mais c'est conforme à ce qu'on essaie de produire sur le magazine L'Équipe, dont on a changé la forme et le contenu il y a quelques mois, avec à sa tête une rédactrice en chef qu'on a embauchée à L'Express, qui s'appelle Géraldine Catalano, qui a beaucoup d'idées sur le sport, mais des idées qui vont un petit peu plus loin que le sport de compétition. Et l'idée pour nous, c'est évidemment, vous savez, L'Équipe magazine est distribuée le samedi en même temps que le journal L'Équipe, et il ne faut pas qu'il raconte la même chose. Donc dans le journal L'Équipe, vous avez la compétition sous tous ses aspects. Dans le magazine L'Équipe, vous avez la compétition, mais aussi d'autres éléments liés à la compétition. On appelle ça, nous, le sport dans tous ses états. C'est une manière de le traiter. Voilà, ça peut concerner effectivement des éléments de pratique sportive, ça peut concerner des éléments liés à la culture, et ça peut concerner effectivement des éléments un peu plus intimes.
Et puis on se souvient de cette une au moment du changement de format où tout le monde vous avait reproché d'avoir ouvert sur des footballeurs masculins alors qu'on était au lendemain d'une grande victoire féminine. C'est vrai que c'est tout un travail aussi.
Je ne me souviens pas. Mais
vous en souvenez pas?
Non.
Bon, d'accord. Mais non, mais c'est vrai que
France Inter peut-être. je pense.
Bon, alors on continue sur l'histoire de l'équipe. Nicolas Anelka vient de déclarer à 11 Mondial. Vous vous souvenez de cette une? Alors à l'époque, vous étiez sur Canal+. Vous n'étiez pas à l'équipe. Ouais. Va te faire enculer, fils de pute. C'était une fuite. C'était dit dans le vestiaire. Ouais. Il avait dit ça à son entraîneur Raymond Domenech. On était en pleine Coupe du Monde, en pleine crise en Afrique.
En 2010.
Ouais. En 2010. Et Nicolas Anelka dit au final qui est la taupe. Ça, c'est la question que lui pose le journaliste. Lui dit, je connais le coupable, je le dévoilerai dans mon film, car Nicolas Anelka va faire un film et il va raconter les dessous de cette histoire. En fait, donc, il va révéler la source. Il va révéler votre source.
On verra.
On verra. Parce que c'est quand même un vrai enjeu, une source, quand on est journaliste sportif, qu'on a un carnet d'adresses et qu'il y a des gens qui nous font confiance.
Ah ben, je pense qu'aucun journaliste de l'équipe ne dévoilera jamais la source en question, ça c'est sûr, c'est un principe fondamental, ça fait partie du métier et j'ai toute confiance en eux. Donc si ça vient d'un joueur, libre à lui, on verra bien. Mais du côté de l'équipe, globalement, personne n'a jamais rien dit.
Personne n'a jamais rien dit. Alors, au lendemain de la victoire 4-0 du PSG face au Barça, vous avez laissé votre édition en kiosque 2 jours durant, ce qui est relativement rare pour un quotidien. Vous avez le tirage aujourd'hui.
Alors on l'a fait déjà parce qu'on a eu quelques problèmes de distribution le lendemain, tout simplement parce que le journal, la victoire était assez inattendue, spectaculaire et inattendue, et globalement le journal est parti très vite le lendemain du match, le mercredi, donc il y a eu pas mal de déceptions chez les gens qui arrivaient à 9h
ou 10h.
Voilà, des ruptures, ce qui est quand même assez rare, et on en a eu pas mal. Donc pour des raisons un peu servicielles, notamment sur les gares parisiennes par exemple, on a redonné effectivement la possibilité aux gens de l'acheter le lendemain, parce qu'on sait bien que quand il y a une performance aussi fantastique d'un sportif ou d'un club français, il y a un côté un peu collector à la une de l'équipe. Les gens aiment bien ça. Et quand on avait changé le format, tout le monde nous avait dit oh là là, ça va disparaître ce principe de
une collector. C'est une vraie question.
Mais comme par hasard, pas du tout.
Pas
elle
du
est
tout.
Très belle cette une comme celle d'aujourd'hui, si vous l'avez vue après le match incroyable de Monaco.
Vous regardez, voilà, en vidéo, vous pouvez.
Elle est très belle aussi.
C'est une vraie question. Est-ce que le format tabloïd a fait perdre ce côté une historique?
La preuve que non, puisqu'on l'a revendu le lendemain, alors que franchement, les infos n'étaient pas très fraîches, mais simplement, je pense parce que.
Donc combien d'exemplaires au final?
Alors au total, 350 000 exemplaires, tout compris, en comptant la vente papier et la vente numérique. C'est un très bon score. Aujourd'hui, notre diffusion moyenne est de 230 000. Mm-hmm. Ça veut dire que sur un jour comme ça, on fait une vente, on a une augmentation de nos ventes de près de 50%, voire de plus de 50%. Ce qui montre bien, et c'est le côté bulle de bonheur de l'équipe, que quand il y a un événement positif et qui concerne les sportifs français la plupart du temps, parce qu'il y a quand même un côté cocardier. Il faut que les Français gagnent. Monaco hier, c'était formidable, mais ils ont perdu. Donc on verra la vente, elle sera forcément un peu moins bonne. Ça change toujours un peu la perspective, mais elle sera bonne quand même.
Regarde dans l'histoire de l'équipe, les 10 meilleures ventes, 9 sur 10, c'était Zidane, justement.
C'est du foot, c'est des grands succès, c'est Noah Roland-Garros en 83. C'est classique, c'est-à-dire qu'il y a forcément un élément cocardier. Donc une victoire d'un club français 4-0 face au Barça, forcément, allait déclencher une très belle vente.
C'est une perte pour vous, le départ d'Ibrahimovic du PSG?
Ah non.
Ses coups d'éclat, ses coups de gueule
Non, pas du tout. Il y a plein d'autres histoires à raconter. La saison de... Si on veut rentrer dans les détails footballistiques, je pense que la saison de foot cette année est bien plus passionnante que l'année dernière. Parce que le PSG...
Ça fait même longtemps qu'il n'y a pas eu un feuilleton sportif.
Le PSG est beaucoup plus accroché en championnat, donc c'est intéressant. Pour nous, il y a l'aspect cocardier sur les matchs de Coupe d'Europe. Donc si le PSG et Monaco sont bons en Coupe d'Europe, c'est très bon pour nous. Et puis sur l'aspect Ligue 1, il y a l'aspect suspense. Personne n'a envie de voir une équipe dominer le championnat, avoir 30 points d'avance. Donc le fait que ce soit accroché cette année en championnat et que les clubs français brillent sur la scène européenne, tous les voyants sont réunis pour nous, pour que nos lecteurs soient contents.
Et alors est-ce que ça peut vous sauver l'année? Parce que pour le coup, vous sortez après l'apparition de la nouvelle formule d'un cycle très fort, l'Euro, le JO.
Mais
vous rentrez dans un cycle plus pauvre en termes de grands événements.
Sur nos ventes, ça se voit pas trop, pas du tout. On est à 17 mois de hausse consécutive, 17 mois sur les 18 derniers.
Je vous parle des mois à venir.
Vous parlez de l'Euro, l'Euro ça s'est terminé début juillet, les JO ça s'est terminé fin août, depuis les JO, les championnats du monde de hand, toute proportion gardée. La finale, oui, mais en plus c'est un événement qui était diffusé sur une chaîne payante, donc globalement le rayonnement n'était pas énorme.
Il y a eu du hand sur TF1.
Il y a eu les trois derniers matchs, c'est parce que ça fait pas beaucoup. Et en effet, le hand c'était bien sur la finale, mais pas forcément sur le reste de la compétition. Donc on n'est plus dans une grande séquence de sport, on est plutôt dans une séquence politique. Tout le monde s'intéresse à la présidentielle.
C'est une vraie question, mais ça d'ailleurs. Quelle est la place, à votre avis, dans le paysage mental des lecteurs, d'un quotidien sportif en année politique?
La bulle de bonheur, l'évasion, le fait de penser à autre chose, de prendre son train. Il y a eu une belle performance de l'OM, du PSG, de Monaco. On passe dans un relais, on prend le train, on prend l'équipe et on se fait plaisir. Le journal est de bonne qualité, très honnêtement. C'est pas moi qui le produis tous les jours, c'est la rédaction, c'est Jérôme Cazadieux, c'est ses équipes, c'est eux qui ont construit cette nouvelle version du journal. C'est un nouveau format, mais c'est aussi une nouvelle formule. Il y a quand même beaucoup de portraits, beaucoup de beaux reportages, beaucoup de mises en perspective.
On va parler de la télé.
C'est un vrai plaisir de le
lire. On va parler de la télé.
Et honnêtement,
parce que
j'insiste
ensemble
sur les grands événements. La part des grands événements a été prépondérante l'année dernière, mais depuis le mois de septembre, on n'est plus sur des grands événements et on a une très très bonne diffusion, y compris cette année, janvier et février, qui seront deux très bons mois. Et honnêtement, janvier et février, on n'a pas eu des événements extraordinaires. On a une continuité, un going, on va dire, de l'actu qui est très très bien traité, je pense, par nos
Alors,
journalistes.
Alors, qu'est-ce qu'on écoute? Un peu de pétanque, un peu de biathlon, un peu de pétanque, un peu de pétanque.
Les 8 meilleurs clubs français de pétanque s'affronteront samedi pour le titre de champion de France par équipe. Sous le soleil du sud, à Alès, un grand 8 d'exception pour les amateurs de boules.
Je dois dire que cette bande-annonce nous a fait la journée. Hier, elle nous a bien fait rigoler. Alors, vous n'avez pas les moyens de vous payer les sports pour lesquels se battent désormais Canal+, beIN Sport et SFR Sport, parce qu'il y a un troisième entrant désormais dans le paysage. Donc, vous nourrissez l'antenne de disciplines évidemment plus mineures. Bien sûr que j'insulte pas les fous de biathlon et que ça a été génial à regarder. Donc, on en a dit la pétanque, mais du foot russe aussi, quelques affiches de foot africain, un peu de rallye, un peu de sport automobile. En même temps, là, la biathlon, il y a eu une vraie chance. Ça a été une star française, ça a été Martin Fourcade. Mais c'est aussi la chance de pouvoir s'appuyer sur un journal et sur un site internet pour faire vivre tous ces sports, pour raconter les histoires, pour faire monter l'envie et l'engouement autour de ces compétitions.
Première chose, on ne compare pas la pétanque et le biathlon.
Non,
on a beaucoup de respect pour la pétanque, mais c'est des événements de l'après-midi, ça marche très bien. Voilà, c'est des événements complémentaires. Le biathlon, c'est un vrai grand sport, un sport olympique, un sport important. Moi, je pense qu'il y a vraiment un point très important qu'il faut éclaircir, parce qu'en France, on a une vraie confusion. C'est le point de différenciation entre les sports d'abonnement ou les disciplines ou les compétitions d'abonnement et les disciplines d'audience. C'est très simple. Qu'est-ce qui fait de l'abonnement aujourd'hui sur le territoire français? La Ligue 1, la Ligue des Champions. Ça, je connais, pour parler de Canal, donc je peux le dire. Le top 14, et je pense à un degré moindre, le rugby, et à un degré moindre, la Formule 1. Les championnats de foot étrangers, je ne suis pas sûr. Ces sports-là sont des sports, ces compétitions-là...
Et on sent qu'on commence à se battre sur la boxe aussi.
Oui, mais je ne le mettrai pas dans cette catégorie. Okay. Moi, je vous parle des sports d'abonnement. Ces sports-là sont des sports qui vont générer de l'abonnement pour les opérateurs qui vont en acheter les grandes compétitions. Ça, c'est clair. Tous les autres sports sont pour moi des sports d'audience. Ça veut dire que tous les autres sports, la boxe comprise, vous les aimez, mais si vous ne les avez plus sur votre opérateur ou si vous n'êtes pas abonné à une chaîne payante, vous pouvez parfaitement vous en passer. Donc, il y a une vraie confusion il y a vraiment un distinguo à faire entre sport d'abonnement et sport d'audience. Nous, on s'adresse à tous les sports d'audience, des sports qui ne sont pas vecteurs d'abonnement. Dès lors, eux, ils ont deux choix. Ou ils vont sur une télévision payante qui pourra peut-être financièrement leur proposer plus d'argent, mais ils seront très mal exposé, parce que les chaînes payantes ne font pas beaucoup d'audience. Ils seront dans un fond de grille. Est-ce qu'aujourd'hui le basket est bien exposé? Est-ce que le hand est bien exposé? Est-ce que l'athlétisme est bien exposé? J'en suis pas sûr. Y compris avec cette bataille de géants qui font que vous êtes abonné, et puis d'un coup votre opérateur perd les droits, faut changer d'abonnement. Est-ce que vous allez changer d'abonnement pour continuer à suivre l'athlétisme ou le hand ou le basket? Je ne pense pas. Donc ça, c'est la première option. L'autre option pour les sports, c'est venez sur l'équipe. Et effectivement, aujourd'hui, le guichet est ouvert et tout le monde nous écoute et de plus en plus de monde. Vous aurez du financement parce qu'on a quand même les moyens de mettre de l'argent dans les sports. Vous aurez une exposition gratuite sur la TNT, sur une chaîne de sport parfaitement identifiée, et la plateforme globale de l'équipe, la plateforme numérique qui est surpuissante, et la valorisation dans le journal. De plus en plus d'ayants droit nous écoutent, donc c'est pas seulement le biathlon, c'est le judo, c'est le volley, c'est le Tour d'Italie,
le Giro
en exclusivité au mois de mai, en clair, le Giro, c'est pas un sport.
Il faut quand même qu'on
raconte,
Cyril Linette, ce que l'équipe télé arrive à faire.
La chaîne l'équipe
arrive à faire, y compris avec des sports qu'elle ne peut pas se payer. Avec le foot, par exemple, on écoute. Oui. Un petit peu d'Yann Riou et de Raphaël Sebaoud le soir.
Paris met 3-0 face au FC Barcelone. Un doublé incroyable de Di Maria. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait Di Maria? Il a caressé le ballon. Le ballon est allé étreindre le filet. C'est fou. Barça, depuis combien de temps?
Donc voilà, le soir, il y a des talk-shows totalement débridés. Et on commence même à avoir le réflexe d'aller voir ce qui se passe sur l'équipe. Alors que globalement, vous n'avez pas les images. Vous faites de la radio. Vous faites de la radio filmée.
Absolument. Il y a deux axes. Le premier axe, je l'ai expliqué, ce sont les événements que l'on peut se payer et qui sont très bien valorisés. Sur la chaîne L'Équipe. Le deuxième axe, c'est les événements dont on n'a pas les droits et qu'on traite quand même. 70% des foyers français, 32 ans après la création de Canal, qui a été le succès que l'on sait, ne sont pas abonnés à un bouquet payant. 70% des foyers français n'ont pas accès à des chaînes payantes. On ne peut pas dire que dans ces gens-là, personne n'aime le sport. Donc ils aiment le sport quand on propose des compétitions et ils aiment aussi sur des événements incontournables tels qu'un PSG-Barça ou hier à Monaco-Manchester City, ils aiment qu'on leur raconte quelque chose. Donc on a créé un concept assez marrant.
PSG-Barça, ils étaient en smoking, c'était le jour de la Saint-Valentin et ils s'offraient des roses rouges.
Et ils étaient 300 000 à regarder le match et pratiquement 1 million au début de l'équipe du soir à l'issue du succès du Paris Saint-Germain. Ce sont des scores colossaux qui font aujourd'hui de la chaîne L'Équipe la première chaîne de sport en France en ce qui concerne son audience et ce de très loin.
Merci Cyril Linette.
Merci Sonia.
L'équipe, donc, c'est sur le canal 21. Et évidemment, l'équipe papier, c'est en kiosque avec un titre ce matin sur le Grand 8 après la folle soirée de Ligue des Champions. Bonjour Ali Rebaï.
Bonjour Sonia de Villers.
Alors, grand bien vous fasse.
La guerre entre frères et sœurs est à l'inévitable. C'est la question posée ce matin. Comment éviter que la jalousie ne s'installe chez nos enfants? 01 45 24 7000.